Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La France condamne l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes dans le nord du Burkina Faso les 12 et 13 janvier dernier. Regarde votre journal sur la situation sécuritaire dans le pays avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. 11 soldats ont été tués en Somalie, ils sont morts lors d'une attaque contre un camp militaire. 40 pays demandent la levée des sanctions contre l'autorité palestinienne, sanctions imposées par Israël après le vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Un Palestinien a été tué ce mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. La justice algérienne confirme la détention provisoire du patron de presse Hissane El Kadi. Il est incarcéré depuis le 29 décembre. Journée de mobilisation ce mardi dans l'éducation nationale. La FSU, première fédération syndicale enseignante, demande de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires de l'ensemble des personnels. La contestation se poursuivra jeudi prochain pour protester contre la réforme des retraites. Gros plan sur cette réforme des retraites dans votre édition avec Paul Hatt, conseiller de Paris, rattaché au groupe Les Républicains. Il était l'invité de Pluriel, extrait de votre journal. Une cité internationale de la langue française doit ouvrir en juin prochain dans la localité de Villers-Cotterêts, en Picardie. Gros plan sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, le pays théâtre d'un enlèvement de masse les 12 et 13 janvier dernier, jeudi et vendredi. Une cinquantaine de femmes a été enlevée, c'est arrivé dans le nord du pays. Cette région est confrontée depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Entretien avec Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Évidemment, elle est de plus en plus détériorée, mais après tout, cela fait déjà plusieurs années que les autorités burkinabées ont perdu une partie du contrôle de leur territoire. On évoque au pire 40% du territoire et plus vraisemblablement 20 à 25% du territoire qui ne serait plus sous contrôle des autorités de Ouagadougou, en particulier dans la région du nord-est du pays, qui est celle qui est précisément frontalière avec le Mali et le Niger, précisément dans ce qu'on appelle de manière fréquente la région des trois frontières, confirmant que les groupes armés terroristes se joue des frontières administratives et que, au fur et à mesure que les forces armées des différents pays n'arrivent pas à juguler la montée en puissance des groupes armés terroristes, ceux-ci s'installent de plus en plus et se méridionalisent d'une certaine façon en descendant de plus en plus vers le golfe de Guinée. Il se trouve que le Burkina Faso est depuis déjà quelques semaines, voire plusieurs mois, un enjeu de plus en plus prégnant pour ces groupes armés terroristes, notamment l'État islamique dans le Grand Sahara.
Cette zone du nord du Burkina Faso, là où ont eu lieu ces enlèvements, cette zone qui est qualifiée de zone sous blocus de groupes djihadistes, qui sont ces groupes? Vous avez notamment évoqué l'État islamique.
Ce sont des groupes qui sont multiples et divers, mais en tout cas on peut les ranger finalement à travers, en ce qui concerne les groupes armés terroristes, à travers deux catégories, ceux qui sont liés à l'Al-Qaïda et ceux qui ont prêté allégeance à partir de 2014-2015 à l'État islamique, précisément l'État islamique dans le Grand Sahara, et puis de l'autre côté, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, dont l'acronyme est parfois présenté en JNIM, en l'occurrence né à partir de 2016-2017, de la fusion de précédents groupes Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Morabitoun, Ansardine, en tout cas le Mujahou, le mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest, et sous l'autorité d'un chef touareg bien connu, Yad Aghali, montrant que ce terrorisme est un terrorisme qui ne concerne pas seulement le Mali, puisque le recrutement de ces groupes armés terroristes, désormais, sont maliens, nigériens, burkinabés, nigérians, voire tchadiens, et bien évidemment avec un fond initial qui est hérité du djihadisme des années 90, la fin des années 90, dans le sud algérien. Ça, ce sont pour les groupes armés terroristes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres groupes armés. La situation est telle que, à la lutte contre le djihadisme et le terrorisme d'inspiration islamiste, s'agrège une autre réalité, celle de heurts intercommunautaires. D'ailleurs, les dernières semaines au Burkina Faso ont été marquées par ces heurts intercommunautaires avec le massacre, appelons-le ainsi, dans la province de Kossi, donc dans le village de Nouna, de précisément 86 civils issus de la minorité Peul, qui ont été victimes d'exactions, d'exécutions sommaires, bref, d'une punition collective contre les Peuls, car il convient de préciser qu'une bonne partie des recrutements de ces groupes armés djihadistes S'ils ont commencé parmi les populations arabes et touaregs, désormais touchent la population peul, la minorité peul qui est présente, la grosse minorité peul qui est présente au Burkina. Et on a le sentiment qu'à la lutte contre le terrorisme d'inspiration islamiste, il ne faut pas oublier les heurts intercommunautaires, comme je le rappelais, qui pourraient aussi expliquer la manière dont le gouvernement burkinabé n'arrive pas à régler la situation. C'est du reste dans ce contexte que l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Allade, en juillet dernier, devant la représentation nationale, précisément sénatoriale, avait évoqué le fait que selon lui, il s'agissait plus d'une situation de lutte intestine, de problèmes endogènes qui minaient le Burkina, mettant en avant le fait que une des causes des deux coups d'État, celui de janvier de l'année dernière, puis septembre 2022, était avant tout le fait d'une logique de guerre civile. C'est une des raisons pour lesquelles les autorités du Burkina veulent et exigent le départ de l'ambassadeur de France à Ouagadougou.
Et un enlèvement de masse comme celui-ci, une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi dernier, est-ce qu'il y a des précédents dans ce pays ?
Alors, il n'y a pas de précédent en ce qui concerne le rapt de ces jeunes filles, de ces adolescentes. Par contre, cela ressemble, hélas, à un processus que l'on a connu dans d'autres pays, et notamment au Nigeria, principalement au Nigeria. On se souvient du rapt de 276 lycéens à Chibok en 2014, et plus récemment, l'enlèvement de jeunes filles, d'adolescentes, 279 précisément, dans l'état de Zamfara en mars 2021, donc confirmant le fait qu'il y a de la part de ces groupes armés ou de ces milices, on ne sait pas qui en est à l'origine, en tout cas un parallélisme ou un mimétisme avec d'autres zones dans lesquelles agissent d'autres groupes armés terroristes. J'évoquais donc le rapt de Chibok et celui de Zamfara en 2014 et en 2021, qui sont le fait d'un autre groupe armé terroriste qui lui aussi a prêté allégeance à l'État islamique, en l'occurrence le mouvement Boko Haram.
On a le sentiment que ces violences au Burkina Faso sont commises dans une certaine indifférence. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Cette indifférence vient du fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte la fragilité intrinsèque du Burkina Faso pour se focaliser à celle du Mali. En l'occurrence, l'opération Serval avait commencé il y a de cela 10 ans pour essayer d'éviter que les groupes armés djihadistes puissent conquérir la totalité du territoire malien. On l'a eu le sentiment avec l'extension de l'opération Serval transformée en opération Barkhane à partir d'août 2014 que le cancer, le kyste, était évidemment plus vaste et concernait pas seulement le Mali, mais l'ensemble des pays limitrophes au Mali, dont le Burkina et le Niger, en y associant évidemment la Mauritanie et le Tchad. On a le sentiment depuis que le Burkina n'a pas été suffisamment, entre guillemets, traité, même si les forces françaises sont présentes au Burkina à travers la Task Force Fabre depuis 2009, on a le sentiment que ce pays enclavé était un peu le parent pauvre de la lutte antiterroriste, en tout cas vu du côté de Barkhane. Il n'y a pas d'opération onusienne de type de la MINUSMA, il n'y a pas de programme de formation européenne comme il y en a à Bamako et il y en a à Niamey. Et donc, évidemment, il y a le sentiment que le scénario malien est en train de se reproduire avec, comme on l'a rappelé au début de cette interview, près de 25 à 40% du territoire qui est passé sous contrôle des groupes armés terroristes, avec 4000 écoles qui sont désormais fermées, avec plus de 2 millions de Burkinabés qui ont fui leur foyer. On comprend bien que la situation est de plus en plus grave. Elle est d'autant plus aggravée que depuis les deux derniers coups d'État, celui du 24 janvier 2022, puis suivi 8 mois plus tard de celui du 30 septembre 2022, la situation politique est en train d'échapper aux autorités burkinabées, puisque ce sont des militaires qui ont chassé le président Marc Christian Kabore.
Et vous avez souligné l'une des difficultés majeures dans ce pays, c'est l'accès à l'éducation aujourd'hui au Burkina Faso.
Alors oui, il y a près de 4000 écoles qui sont fermées, notamment dans le nord du pays, principalement dans le nord-est du pays, là précisément où les groupes armés terroristes sont le plus enquistés. Mais la question est évidemment plus large, puisque le gouvernement burkinabé a décidé de mettre son ambition ou ses priorités en matière de sécurité et de défense, avec encore très récemment la mobilisation de près de 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, ce qu'on appelle les VDP, donc des milices au service du gouvernement burkinabé. Et il faut bien armer ces VDP. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier ministre de ce gouvernement de transition, qui est en fait un gouvernement putschiste, Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, s'est rendu à Moscou pour essayer de récupérer des armes. On soupçonne qu'une partie de ces armes, ces AK-47 que la France ne voulait pas livrer, comme d'autres pays européens, qui ont été livrés par la Russie, ont largement contribué aux exactions, à une sorte de punition collective qui est en cours actuellement contre les Peuls, rendus responsables de quelques attentats, de nombreux attentats qui ont précédé. J'évoquais la tuerie donc de Nouna, enfin les exactions de Nouna, donc du fait de ces VDP et de chasseurs d'Ozo contre les quartiers Peuls de Nouna. Mais il faut avoir à l'esprit que cette action a succédé à un attentat qui avait coûté la vie à plusieurs gendarmes quelques jours avant la fin de l'année 2022.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Une quarantaine de pays demandent la levée des sanctions adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne. Ces sanctions, notamment financières, ont été prises après l'adoption d'une résolution onusienne demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation israélienne. La déclaration qui demande la levée de ces sanctions est signée par des pays qui ont voté pour cette résolution, comme l'Algérie, l'Argentine, la Belgique, le Pakistan, l'Afrique du Sud ou encore l'Irlande, mais aussi par certains qui se sont abstenus, comme la France, le Japon ou la Corée du Sud, et aussi d'autres qui ont voté contre, comme l'Estonie et l'Allemagne. Un Palestinien a été tué ce mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. L'armée qui a fait état d'une attaque armée contre ses soldats. L'homme âgé de 40 ans a été tué par balle près de la ville de Hébron. Plusieurs ONG ont repris partiellement leurs activités avec du personnel féminin en Afghanistan. Ces organisations non gouvernementales ont reçu l'assurance des autorités talibanes que les femmes peuvent continuer à travailler dans le secteur de la santé. Le 24 décembre dernier, le ministère afghan de l'économie avait annoncé que les ONG avaient désormais interdiction de travailler avec des femmes afghanes. Ces organisations apportent une aide essentielle pour ce pays dont plus de la moitié des 38 millions d'habitants est confronté à une insécurité alimentaire aiguë. 11 soldats ont été tués en Somalie. Ils sont morts lors d'une attaque contre un camp militaire, attaque revendiquée par les terroristes Shebab. Cela est intervenu au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la reprise d'une ville stratégique, la ville côtière de Haradder, située à 491 km au nord-est de la capitale Mogadiscio. La justice algérienne a confirmé la détention provisoire du patron de presse Hissane El Kadi. Il est incarcéré depuis le 29 décembre dans le cadre d'une enquête pour collecte illégale de fonds et atteinte présumée à la sûreté de l'État. La chambre d'accusation de la cour d'Alger a rejeté dimanche l'appel interjeté par le journaliste contre son incarcération. Reporters sans frontières souligne que son arrestation est intervenue quelques jours seulement après la publication d'articles critiques envers les autorités RSF qui dénoncent une motivation politique. La Tunisie a accueilli 6 400 000 touristes au cours de l'année 2022, une annonce du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Les recettes touristiques ont dépassé l'an passé les 4,2 milliards de dinars. L'invité de Pluriel était Paul Hatt, conseiller de Paris, élu de la société civile dans le 17e arrondissement de Paris, rattaché au groupe Les Républicains. Plus jeune conseiller de Paris, que pense-t-il de la réforme des retraites, Paul Hatt?
Moi j'ai 29 ans, je vois dans ma génération, on est tous assez quand même inquiets sur l'état des retraites et ce que ça va donner. Donc voilà, la droite de façon générale depuis très longtemps se bat pour reculer l'âge de la retraite. Je pense que ce qui va dans ce sens, va plutôt dans le bon sens.
Et donc, ça vous paraît normal que la droite vote avec les députés Renaissance sur cette réforme ?
Oui, écoutez, moi je fais partie des gens qui considèrent que c'est normal. Ça va quand même dans le sens de ce qu'on défend depuis longtemps. L'espérance de vie augmente. Il faut aussi que l'âge de la retraite recule. Alors évidemment, il faut prendre en compte les pénibilités, hein, c'est normal. Mais ça va plutôt dans le bon sens et ça va permettre de maintenir l'économie à flot.
Avec tout de même une inquiétude pour les seniors qui risquent d'être au chômage pendant plusieurs années avant l'âge de la retraite.
Oui, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travail des seniors. Aujourd'hui, quand vous arrivez au chômage, que vous avez plus de 50 ans, même parfois plus de 45 ans, ça devient un peu difficile de trouver du travail. Donc je pense qu'il y a aussi un système qui doit revaloriser les carrières des seniors. et permettre aux gens de réintégrer le travail plus facilement.
Alors, les syndicats, Paul Hatt, se mobilisent contre cette réforme. Il y aura une première journée de grève ce jeudi 19 janvier. Les syndicats dans les raffineries devraient bloquer les dépôts d'essence d'abord 24 heures, puis 48 heures et enfin 72 heures. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Oui, je suis assez inquiet parce que l'ambiance est quand même déjà très électrique en France. On va de crise en crise, l'ambiance est morose, on a des problèmes dans les transports à Paris notamment. Donc si vous voulez, si on a des problèmes majeurs et qu'on y ajoute une crise des raffineries, ça peut être quand même assez compliqué pour la population française.
Est-ce que cette réforme tombe au bon moment ? C'est tout de même une année où les Français sont préoccupés par l'inflation des prix de l'alimentation et de l'énergie.
Écoutez, moi je me souviens de la réforme des retraites de 2010, hein, j'étais au lycée. Je pense qu'à un moment, il faut quand même commencer à avancer. La réforme des retraites, elle a aussi tenté de commencer en 2018, à l'été 2018, et puis elle n'a pas abouti. Voilà, il y a un moment où il faut que ça commence et le temps presse.
Paul Hatt, conseiller de Paris, élu de la société civile dans le 17e arrondissement de Paris, rattaché au groupe Les Républicains. Il était l'invité de Pluriel, émission disponible sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. À 19h et 23h, Loïc Barrière reçoit Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Journée de mobilisation ce mardi dans l'éducation nationale. La FSU, première fédération syndicale enseignante de demande de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires de l'ensemble des personnels. La contestation se poursuivra jeudi prochain pour protester contre la réforme des retraites. Une cité internationale de la langue française doit ouvrir en juin prochain dans la localité de Villers-Cotterêts en Picardie, ville qui accueillera en 2024 un sommet de la francophonie. Une ville célèbre pour une ordonnance de 1539 qui faisait du français la langue privilégiée pour tous les actes administratifs du royaume de François Ier. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.